À voix nue, Caroline Brouet. Cette semaine avec
Olivier Rollinger, une balade entre ciel et mer.
Deuxième épisode, à la recherche du goût du vent. Bonsoir Olivier Rollinger.
Bonsoir Caroline.
Hier, nous nous sommes quittés sur un drame qui est le troisième que vous avez connu dans votre jeunesse et qui a sans doute décidé, de façon indirecte, de l'avenir de cuisinier qui allait être le vôtre. C'était un soir de mai 1976, vous aviez 21 ans et vous avez été victime, je crois qu'on peut le dire comme ça, hein, d'une tentative d'homicide.
Oui.
Qui vous a laissé pour mort. Mmh. Vous avez été massacré.
Et là, c'était la veille de la fête des mères, même. Et c'était entre l'écrit et l'oral du concours des arts et métiers. Et bon, c'était une soirée... Justement, j'étais rentré plus tôt parce que j'avais une régate importante. C'était un samedi soir. J'avais une régate importante le lendemain matin. Et tous les copains avaient été partis en boîte de nuit, et les copines. Et moi, avec un autre copain, j'étais rentré plus tôt. Et je suis arrivé en bas d'un immeuble, intramuros à Saint-Malo. Et là, après, c'est des interprétations, parce que j'ai une perte de mémoire de près de 4-5 jours facilement. Mais là, avec les témoins et autres, cinq mineurs qui me sont tombés dessus. En bas de cet immeuble, et m'ont massacré à coups de baramine, mais acte de violence gratuit.
En fait, ils me suivaient parce que
j'étais arrivé. Oui, j'étais le copain qui m'avait ramené derrière sa moto. Et en fait, ils nous suivaient. Et après m'avoir déposé, ils m'ont massacré dans cet immeuble. Je suis remonté ensuite. Ça avait été une épreuve. C'est une épreuve dont je me souviens toute sa vie, parce que je me suis ensuite... j'ai repris connaissance. Et là, j'ai aspiré à une chose, c'est étant au rez-de-chaussée, d'aller au cinquième étage, c'est-à-dire de réussir à ouvrir la porte d'un ascenseur qui était très lourd, donc il fallait déjà, alors que je n'avais plus, enfin, j'avais triple fracture jambe gauche, double fracture jambe droite ouverte, bassin en trois, fracture du crâne, et je pouvais évidemment plus me mettre debout, donc simplement j'étais que sur le tronc, sur les fesses, et réussir à ouvrir et de traîner mes jambes, évidemment avec, c'était déjà une mare de sang, et je suis rentré dans cet ascenseur, et ensuite, l'épreuve la plus dure, c'était de réussir à appuyer sur le bouton numéro 5, pour aller me réfugier là-haut, ensuite pousser la porte et de me coucher devant simplement la porte de l'ami chez lequel je vais aller dormir. Mais évidemment, je n'avais pas la possibilité de pouvoir aller glisser la clé en haut de cette porte, dans ce verrou. Donc je suis resté là et les copains m'ont retrouvé à 4h du matin, à bout de sang, emmené à l'hôpital et avec une tension extrêmement basse, avec des poches de sang qui m'ont été versées. Et certains m'ont considéré comme perdu. J'ai retrouvé d'ailleurs l'année dernière, simplement, avec beaucoup d'émotion, le jeune infirmier qui m'a accueilli à l'hôpital de Saint-Malo. Et qui, en voyant dans quel état j'arrivais, que les pompiers m'ont ramené, j'étais perdu, quoi, pour lui. Et pour tout les médecins, les chirurgiens qui sont tout de suite occupés de moi, et je remercie encore beaucoup d'ailleurs, ils ne sont plus de ce monde, mais ils m'ont sauvé la vie. Et puis, ensuite, un coma. Et puis
une
ensuite,
semaine de coma, deux ans de convalescence.
Deux ans de convalescence.
J'étais cloué au lit pendant un an et demi,
voilà, fauteuil roulant. Des greffes osseuses à tour de bras, des ostéites.
Au bout de deux ans, une jambe gangrénée à tel point que le chirurgien dit que si la fièvre ne passe pas, il va falloir vous amputer. Vous avez subi six greffes osseuses, enfin...
Ouais. Et puis, c'était effectivement très lourd, sachant pas si j'allais remarcher un jour.
Ça a tout changé,
Olivier. Ça a tout changé. C'est-à-dire que lorsque vous passez des heures, les yeux rivés sur un plafond d'hôpital alors que vous avez 21 ans, il y a un double phénomène. Vous vous dites, je resterai enfant toute ma vie, parce que la vie, elle est trop belle, et je veux m'émerveiller. La vie, c'est un émerveillement avant tout, et j'en ferai un jeu. Ça, vous le promettez à jamais. Mais en même temps, vous prenez une forme de maturité, voire de je vais pas dire de sagesse, mais de recul mortel. Sur le monde.
Vous devenez mortel.
On devient immortel.
Enfin, mais tout en étant immortel, puisque vous.
Oui,
vous,
voilà.
Vous c'est-à-dire. Donc c'est.
Bah, on sait que c'est une deuxième vie, quoi. Et parce que la première vie, on s'en rend pas compte, parce que effectivement, lorsqu'on a 21 ans, on est immortel, on est Highlander, jamais. C'est-à-dire, moi, je pouvais. J'étais passionné de bateau, j'étais passionné de moto, j'étais passionné. Je vivais à 400 à l'heure. Et là, c'est une cassure absolument redoutable, mais qui est un. Pendant 2 ans et demi, vous pouvez considérer que c'est un ressort qui se comprime en disant si jamais je m'en sors, d'abord, si jamais je vis, et si je réussis à trouver toutes mes facultés. Alors, je vais faire de ma vie toute autre chose que celle que, plus ou moins, les contraintes extérieures auraient pu m'amener à faire, ou en tous les cas, une conduite. Voilà, je voulais être ingénieur parce que je savais que ça allait faire plaisir à ma mère. Et puis, j'étais passionné de mécanique, j'étais passionné aussi de colle, j'étais passionné de chimie, j'étais passionné de... Enfin, tout me passionnait, en fait. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que cette maison qui s'était endormie depuis l'âge de 13 ans va se réveiller à nouveau parce que il y a des. D'abord, ma mère est absolument merveilleuse à mes côtés. Évidemment, elle a eu très peur. Elle a eu très très peur, évidemment. Et tous les copains de la petite enfance qui étaient devenus ostriculteurs, caseilleurs, pêcheurs, cultivateurs. Pour venir le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche pour me remonter le moral. Et puis les copains et copines étudiants de Rennes viennent me voir avec des flacons, des bouteilles. Et donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, la maison revit à nouveau. Ma mère se remet au fourneau. C'est à nouveau des rires, comme lorsqu'il recevait. C'est à nouveau des odeurs, évidemment, de fêtes, de rhum, de calva, de tabac. Il y a une vie qui se remet là, en place, absolument incroyable. Je me rends compte de l'importance de cette, encore un peu plus de cette mère, évidemment, qui m'accompagne à une forme de renaissance. Je me rends compte de l'importance de cette maison. Je me rends compte de l'importance de ces hommes et ces amis, de ces hommes et ces femmes qui m'apportent. Et je m'aperçois de l'importance de la table. Où je me dis, mais le bonheur n'est-il pas dans cette maison, autour de cette table, en goûtant cette cuisine merveilleuse de cette mère. Et puis là, c'est aussi la magie de la vie, les plus beaux cadeaux de la vie qui arrivent. Cette blondinette.
Vous avez fait un CAP de cuisine.
Ouais. Alors je passe mon CAP de cuisine, mais il y a cette blondinette qui est arrivée, qui est Jeanne.
Qui faisait des études de pharmacie.
Elle était en train de terminer ses études de pharmacie. On va plus fêter mon CAP que son diplôme de pharmacie. Et elle va bousculer ma vie.
C'est-à-dire plus quitter quoi.
Ben c'est-à-dire que c'est celle qui va devenir ma femme, mais c'est celle avec laquelle je décide de construire un bonheur et en particulier de tenter de bâtir ce que je n'avais pas eu, une famille. Ce qui est alors que moi j'étais vraiment, je m'étais dit si jamais je m'en sors, moi ce qui m'intéresse ensuite c'est larguer les amarres et partir faire de la course au large. Là, il se passe autre chose, il se passe que je dis non, il y a cette femme qui rentre dans ma vie, on va devoir conserver cette maison parce que ma mère n'a plus les moyens de retenir cette maison. La vie, le bonheur de vivre, se passe là, autour de cette table, autour de ses amis, avec ses produits absolument merveilleux qui m'amènent, des produits de la terre, que ce soit les oignons, les pommes de terre, les poireaux, mais aussi les étrilles, les huîtres, les sols, les coquilles Saint-Jacques, les pommes, les coings, les carottes, tout arrive là, le miel, des crèmes, des beurres. Et je dis, mais... Et finalement, le bonheur, est-ce que c'est pas de faire revivre cette maison? Est-ce que c'est pas prolonger le bonheur de l'enfance et le faire partager à un plus grand nombre dans ce lieu? Et je m'en rends pas bien compte parce que j'essaie de reprendre à l'école de chimie, mais j'ai perdu 3 ans. Donc les jeunes que je retrouve étudiants au même niveau, ils ont 3 ans de moins. C'est des gamins. Puis moi, j'ai pris une telle maturité, j'ai déjà toute une telle histoire que tout ce qui est cartésien et rationnel, je le trouve froid, insipide, sans saveur, qui est là. Moi, j'ai besoin de rencontrer les autres, j'ai besoin de la vie, j'ai besoin de la sensualité, j'ai besoin de je suis à la recherche d'un moyen d'expression, de raconter le bonheur du quotidien, au quotidien, ce petit bonheur simplement qui est ce souffle de vie. Je suis pas musicien. Je sais pas dessiner, je sais encore moins peindre. Je suis pas un littéraire, je suis une espèce de petit scientifique. Qu'est-ce qui me reste? Et là, je vois ça, mais je dis, mais évidemment, c'est la cuisine. La cuisine est un moyen d'expression du bonheur de vivre au quotidien, qui fait appel aux 5 sens, à l'olfactif, visuel, tactile, gustatif. Tout est là, même l'ouïe est là, on peut tout faire autour de la table. C'est ça que je veux faire. Mais j'ai 24 ans et j'ai pas touché une casserole. Et là, je vais effectivement pendant cette formation en accéléré à la chambre de commerce de Rennes, dans ce restaurant d'application. À l'époque, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas de cuisine d'application. C'était le restaurant de l'aéroport Rennes-Saint-Jacques. Et là, je passais le service et c'est parti. Et c'est parti.
Après, il a fallu quand même vous former, enfin, parfaire cette formation, disons, en allant voir les cuisines de quelques grands chefs.
Alors, évidemment, pendant près de 2 ans, je vais aller chez. Chez Gérard Vier, chez Yves Turiès, je vais même faire un passage chez Guy Savoy, je vais surtout dévorer et me nourrir d'une culture culinaire en lisant tout sur la cuisine, mais aussi bien sur Menon qu'Édouard Nignon, mais aussi les fiches L, tout ce qui me passe par la main. J'avais été et en fait, c'est quelque chose qui m'avait raccroché à la cuisine. J'avais 18 ans et ma sœur était abonnée à la fois à Cuisine et Vins de France et Goemio. Et comme ça, quand je passais chez elle, je lisais toujours ces choses un petit peu mais entre les lignes. J'étais toujours un peu intéressé. Mais il y a un livre qui m'avait vraiment marqué, qui est le livre Croque en bouche de Fanny Deschamps, qui était la tante d'Alain Chapelle et qui racontait tous les la vie dans les coulisses d'Alain Chapelle à Mionnet. Et ça, c'est c'était resté et peut-être que je voulais revivre ces choses-là. Mais c'était ensuite comme une évidence. Et il y a un garçon qui s'appelle André Hélan, qui a été mon chef pendant toute ma carrière, qui est parti cette année en retraite, et que je salue parce que j'ai eu la chance de le rencontrer. On a fait un tandem extraordinaire tous les deux. Ce garçon, il était commis dans cet aéroport Rennes-Saint-Jacques. Je lui dis, écoute, je vais faire un tour. Et pendant 1 an et demi, 2 ans, je vais voir un peu comment ça se passe. C'est un tour de France compagnonnique, presque en accéléré. Je reviens et je lui dis, tu vas voir, on va ouvrir une table d'hôte ou un restaurant et tu verras un jour, Paul Bocuse viendra s'asseoir à la table. Évidemment, c'était un gag. Je voulais même pas y croire, cette histoire-là. Et en fait, on a ouvert dans cette maison. Mais comment avoir le culot d'ouvrir dans cette maison à Cancale, sans vue de mer, sans parking, faire rentrer les plus premiers clients dans ce petit jardin. Et en fait.
Pas de vue sur la mer.
Pas de vue sur
la
mer.
Pas de fruits de mer, pas de crêpes.
Pas de fruits de mer, pas de fruits de mer, pas de gigot d'agneau flageolet. C'était une espèce de défi. Et j'ai tout de suite là compris qu'il fallait que j'écrive une cuisine qui raconte l'histoire de ce pays, expression de mon environnement naturel. Plus frais pêché, plus frais cueilli, expression de mon environnement culturel. Donc le plus frais pêché, le plus frais cueilli. Mais ici, c'est un pays de cocagne. On a tout qui vient de la mer. Ces hommes et ces femmes qui façonnent la nature, ces pêcheurs et ces cultivateurs et ces éleveurs, absolument d'une qualité extraordinaire. C'était gâté. Mais aussi, il fallait raconter l'histoire. Donc, on parlait de ces celtitudes, on parlait de ce rapport à l'estran de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est plus tout à fait, c'est pas encore tout à fait la mer, mais c'est plus tout à fait la terre non plus. C'est marcher au fond de la mer. Là, il y a une végétation, il y a une flore, il y a une faune qui est tout à fait particulière. Mais c'est aussi traduire les caractères à la fois des gens de la baie, gens du Maroc, on l'appelle, et puis la notion des marins, des pêcheurs, de l'aventure. Et puis j'ai cette rencontre avec ce garçon qui fait une étude sur la Compagnie des Mers du Sud qui va devenir la Compagnie des Indes et qui me raconte les 14 épices que l'on trouvait dans les murs de Saint-Malo à la fin du XVIIe siècle. Et là, c'était un déclencheur absolument incroyable en disant « Là, j'ai la clé pour traduire l'esprit d'aventure. » Parce que quand, par exemple, ma mère m'emmenait traverser la place de l'église le dimanche, elle voyait, par exemple, deux, trois hommes qui avaient comme ça la casquette vissée sur la tête. Elle me disait « ces hommes sont des trésors vivants. Ce sont les derniers caporniers. » C'est-à-dire ces hommes qui avaient franchi le caporne à la voile. Cet esprit d'aventure, comment vais-je le traduire? Eh bien, en m'appropriant l'univers des épices. Et ce premier mélange, 14 épices, que j'ai appelé « Retour des Indes », c'était pas surtout pas « Retour d'Inde », c'était « Retour des Indes occidentales et orientales », parce que dans ces 14 épices, certaines venaient déjà de Chine, comme le poivre Sichuan ou la badiane, mais c'était également la vanille et le piment que l'on pouvait trouver dans le Nouveau Monde. Donc c'était bien... la mondialisation des saveurs était faite dans les murs de Saint-Malo à la fin du XVIIe. Il fallait que je raconte cette histoire dans ma cuisine.
Vous êtes devenu donc Olivier Rollinger, en même temps, on peut dire, cuisinier et compositeur d'épices.
Les deux,
c'est la spécificité de votre cuisine. Et d'ailleurs, de ces épices, on fera toute l'émission demain avec vous. Et ça a marché. Ça a marché parce que 6 mois après l'ouverture de cette première table d'hôte en 1982, vous êtes distingué par 2 toques et un 15 sur 20 ou un 16 sur 20, mais enfin une très bonne note, disons, oui. Au guide Guémillo.
Un 15 sur 20. Oui.
Juste, dites-nous, au début des années 80, comment est la gastronomie française? Dans quel univers arrive cette cuisine des
Rollinger? À l'époque, il y a déjà...
Qui domine?
Il y a déjà il y a une cuisine extrêmement classique encore, hein, qui est là, de très grande qualité, mais qui commence un peu à ronronner, est un peu en poulet, un peu grasse, un peu lourde. Et puis arrive cette période de la nouvelle cuisine, hein, emportée par les Trois Gros, par les Guérard, par les Sandrins, par les Chapelles. Et puis les tout premiers autodidactes commencent à poindre leur nez. C'est Michel Tramas, c'est Marc Menot, c'est donc on voit des hommes qui sortent du sérail. Il y a à côté la cuisine très technicienne, et puis il y a la cuisine qu'on appelle un peu plus réfléchie, plus intellectuelle, je pense. C'est pas l'opposition, mais il y a quand même une grande différence entre la cuisine déjà d'un Joël Robuchon et d'un Alain Sandrins. Alors ils sont à peine un peu là les frémissements, mais on se rend compte que la cuisine d'auteur peut commencer à pointer son nez. Et je pense que là, on est arrivé là justement avec Michel Bras. Avec Alain Passard, on le sent bien, quoi, mais on est dans la veine d'un Sandrins déjà quand même. Moi, je pense que cet homme, on n'en parle pas suffisamment, mais...
Alors, c'est-à-dire, ça veut dire quoi être dans la veine d'un Sandrins?
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réflexions avant. Alors, ouais, certains nous ont critiqué en disant que c'était un peu du jus de cervelle, où on allait chercher un peu loin. En fait, c'était un vrai modèle d'expression. Et c'est pas simplement raconter un territoire. C'est aussi raconter un état d'âme.
Par exemple, vous avez interprété la découverte du Nouveau Monde par les Occidentaux avec un homard au vin de Xérès, l'union du cacao et du piment. Ça, ouais. Ça pouvait être perçu comme un jus de cervelle, c'est ça que vous voulez dire?
Peut-être un peu, parce qu'il faut connaître l'histoire. Il faut s'intéresser à l'histoire. Moi, j'avais une passion, toujours ma passion, c'est l'histoire de l'aventure maritime malouine, bretonne, française, européenne. Et pourquoi avons-nous voulu découvrir le monde? C'est quelque chose qui me fascine. Et alors, pourquoi le homard au cacao? Bien, ici, on connaît, quand on fait pincer comme ça une chair de homard, un peu de beurre salé, c'est-à-dire on fait à peine frémir le beurre comme ça, et tout d'un coup, il y a ce qu'on appelle une caramélisation qui se fait sur la chair du homard, avec des saveurs sucrées qui apparaissent, légèrement vanillées d'ailleurs, qu'Alain Sandrins avait déjà repéré puisqu'il faisait un homard à la vanille, bien avant que moi je ne cuisine. Et Et ensuite, moi, pourquoi j'ai pris un vin d'Auxerre? Je me dis, mais pourquoi il devrait prendre un muscadet ou, je sais pas, moi, un calvin ou une eau de vie de pomme ou, mais pas, qu'est-ce qu'il va nous chercher avec l'Auxerre? Mais oui, mais il faut savoir que Saint-Malo commerçait avec Cadix, parce qu'à l'époque, lorsque vous vouliez aller commercer dans les mers du Sud, vous aviez besoin de dollars de l'époque, qui était la piastre d'argent espagnole. Et il y avait énormément de relations entre les familles de Cadix et de Saint-Malo. Donc, dans toutes les malouinières, on trouvait une carafe avec toujours du Xérès dedans, qui est un vin par naissance oxydé, donc il ne pouvait rester tout à fait en carafe toute la journée, et on en buvait à n'importe quelle heure de la journée. Donc ça avait du sens, mais qui le sait, ça? Moi, j'ai pas à raconter, mais par contre, dans le développement aromatique, lorsque vous le mettez avec un amontillado et vous déglacez avec un amontillado votre homard, là, la saveur explose. Et pourquoi j'associe aux trois piments? Ben parce que là, c'était de la touche de la Ravardière, cet homme qui était parti en 1615 de Cancale avec trois bateaux, qui était un huguenot, le clergé avait voulu le virer, on lui file un peu d'argent pour partir, pour évangéliser, pour fonder la France équinoxiale, il va arriver à Bélème, et aujourd'hui à il va fonder la ville de Saint-Louis, plus tard, le port de Saint-Louis. Ce petit bonhomme, de la touche de la Ravardière, et il raconte qu'on lui fait boire un breuvage de cacao pimenté, mais qui était buvable simplement lorsqu'on l'associait avec du miel. Mais cette histoire-là, j'ai voulu rendre hommage à l'épopée de cet homme, parce que lorsqu'il est revenu, il avait les piments, il avait la vanille, il avait évidemment le homard, et évidemment, dans les malouinières dans lesquelles il vivait en bas de Cancale, il y avait sûrement de la montilla d'Auxerès. Donc, si vous voulez, lorsqu'on crée une recette, il faut avoir un cadre créatif. Il est souvent intime, d'ailleurs, mais il fait un peu partie, il fait partie dans votre bagage, de vos souvenirs, de vos émotions, mais de vos émotions littéraires, des récits qui vous ont marqué, touché. Je vois que vous avez, et c'est un peu comme une légende, c'est-à-dire que un plat, c'est, il y a un fond de vérité. Mais vous avez besoin de ce fond de vérité. Et par exemple, il est hors de question que je mette autre chose. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, j'aurais pas pu mettre un vin de Malvoisie, par exemple. Même si, peut-être que, au niveau organoleptique, gustatif, c'est peut-être meilleur. Mais ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens.
Donc,
enfin, vous l'auriez pas fait quand même, cette recette, si elle n'était pas bonne au final.
Ah bien sûr que non, bien sûr. Non, mais là, il faut arriver quand même à créer une harmonie, une émotion, à avoir une approche en bouche, une attaque, une rondeur, une perception. Bien sûr, non, mais après, il y a la construction en même temps du goût. Comme lorsqu'on construit, lorsqu'on parle d'une construction d'un mélange d'épices. C'est une véritable construction, comme un architecte ou comme en musique. On a besoin de à la fois d'empiler, de mettre les autres, mais de faire glisser l'un dans l'autre aussi. Mais ça, c'est un jeu merveilleux. Là, c'est l'enfant qui revient. C'est entre le logo, la pâte à modeler, la boîte de peinture, la boîte de musique. C'est des compositions que l'on peut faire avec des feuilles, avec des branches, mais c'est qu'on empile les odeurs, les textures, c'est ça le jeu, et puis qui viennent agacer tout d'un coup une dimension émotionnelle par rapport à un souvenir. Et elle est à la quête aussi, à la recherche d'un goût. C'est-à-dire que vous l'avez, moi par exemple, je sais, je veux arriver à ce goût. Mais comment y arriver, quoi? C'est quel chemin prendre? Il faut parfois faire trois pas de côté pour y arriver. C'est un jeu. C'est parfois un jeu. Heureusement qu'il me reste encore le mélange d'épices, parce que c'est un jeu. Aujourd'hui, dans la composition d'un plat, me manque un peu. Mais aujourd'hui, je vois jouer Hugo et composer et stresser.
Hugo, c'est votre fils. Hein.
Ouais, et partir dans tous les sens, se mettre dans des états. Moi, on se met dans des états de solitude, de concentration, lorsque l'on est dans la création d'un nouveau plat. Mais une forme d'excitation comme ça, seul, hein, les gens qui nous regardent. Mais je pense que s'il y a, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des auteurs qui peuvent se mettre dans ce même état. Et je pense que le poète, ça doit être pire encore. C'est-à-dire que il est complètement dans son roman et dans son écriture, et presque un état de transe, quoi.
Ce goût du vent, c'est une réalité, vous l'avez vraiment cherché toute votre vie, le goût du vent?
Mais le goût du vent, c'est mon graal, j'y arriverai jamais, j'y suis pas arrivé. Enfin, j'ai tenté de le toucher. Alors d'abord, pourquoi j'aime le vent? Parce que d'abord, c'est le... Je sais plus qui avait écrit, c'est le plus bel amant de la Bretagne. Et la question, on dit, mais pourquoi est-ce le plus bel amant de la Bretagne? Parce que c'est le seul qui vient toujours d'ailleurs. Et cette notion par rapport à la Bretagne, qui paraît être ce pays un peu... qui peut être conservateur, qui peut être ancré là, avec ses traditions, avec sa musique, avec son folklore, avec avec ses histoires, avec ses légendes, avec ses hommes et ses femmes, parfois durs, parce que c'est parfois dur, justement, de lutter contre le vent, a toujours eu ce plus beau compagnon qu'est le vent, qui l'accompagne pour aller au-delà de l'horizon, qui l'accompagne pour se nourrir à la pêche, qui l'accompagne et qui caresse cette Bretagne, et mais qui vient toujours d'ailleurs. Il peut venir de l'Atlantique Sud, il peut venir de l'Atlantique Nord. Personne d'autre n'a respiré cette terre en dehors de ces vagues. Et lorsqu'il vient caresser le rivage, il arrive sur ces goémons qui sont un peu chauds, sur ces vases, sur ces sables. Ensuite, il remonte le long de la falaise avec ses fougères et ses pins. Et là, il faut cueillir. Il faut cueillir, il a encore des particules d'odeur de vanille, de benjoin, de zédoer, de galanga et de gingembre, des ailleurs, d'autres mondes et d'autres rivages. Et comment capter finalement ce souffle d'ailleurs pour pouvoir le faire glisser dans votre cuisine avec ces produits tellement d'ici. Ça, c'est un jeu absolument merveilleux.
Merci Olivier Rollinger.
C'est moi qui vous remercie.
Demain, nous mettrons donc un peu d'épices dans ces voiles pour approcher un peu plus de ce goût du vent qui est votre quête du Graal, comme vous nous l'avez si joliment dit. Bonne soirée à vous.
Merci, bonne soirée Caroline.
C'était À Voix Nue avec Olivier Rollinger. Chargé de programme, Daphné Abgral. Prise de son, Stéphane Foulon. Réalisation, Guillaume Baldi. Une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.